Et bonjour à tous, c'est une des figures les plus populaires de la vie politique française. Depuis la publication de son dernier livre il y a un an, elle intervient régulièrement dans les médias. Mais que fait vraiment Ségolène Royal à l'ambassade des pôles et comment utilise-t-elle les moyens que le Quai d'Orsay met à sa disposition? C'est ce qu'on va voir avec vous, Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Jacques.
Parce que des questions se posent à ce sujet, vous avez en effet pu établir que des employés mis à disposition donc pour ses activités d'ambassadrice travaillent parfois sur des sujets qui semble assez éloigné de la mission pour laquelle ils sont rémunérés.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Qu'est-ce que c'est que faire de la politique quand on a la chance de gérer de l'argent public et de décider pour les autres? D'abord, on doit servir et ne pas se servir. Deuxièmement, on doit rendre des comptes. Et enfin, on doit être capable de donner plus à ceux qui ont le moins.
Voilà, ça c'était Ségolène Royal en 2010 sur TF1, celle qui est alors présidente de la région Poitou-Charentes, s'exprime sur son rival à la présidentielle, Nicolas Sarkozy. Ensuite, elle a été ministre de l'Environnement, un sujet sur lequel elle s'exprime régulièrement et qui semble effectivement en phase avec ses nouvelles fonctions d'ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique. Mais au fait, c'est quoi l'ambassade des pôles et qui fait quoi à ses côtés? C'est donc ce qu'on va voir avec vous, Sylvain Tronchet. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, faut d'abord peut-être faire un peu d'histoire.
Oui, il faut revenir en mai 2017, juste avant l'élection d'Emmanuel Macron. À l'époque, Ségolène Royal est encore ministre de l'Environnement. Et en fait, elle entend bien le rester, malgré le changement de président qui s'annonce. Un ancien membre de son cabinet m'a raconté qu'elle leur avait dit « Ne faites pas les cartons, nous allons rester ici ». Et elle y a cru jusqu'au bout, comme elle l'a raconté en juin 2017 au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV.
Emmanuel Macron m'a appelé en disant bon, il n'y a pas.
Il paraît qu'il vous a appelé très tard.
Oui, très tard.
Avant très tard, c'est-à-dire une heure avant la nomination du gouvernement.
Oui, voilà. Emmanuel Macron m'a dit, j'ai apprécié d'ailleurs, parce qu'on s'est toujours apprécié, que bien évidemment, il comptait sur moi. On est en discussion d'ailleurs.
Vous êtes en discussion?
Oui, oui.
On est en discussion, mais là on ne parle plus du ministère de l'Environnement, Sylvain. Si on discute, c'est pour parler d'une autre proposition.
Oui, et cette proposition, c'est ce poste d'ambassadeur chargé des négociations arctiques et antarctiques, qui est vacant depuis la mort de Michel Rocard un an plus tôt. Pour Ségolène Royal, c'est la dernière carte, parce que quelques mois plus tôt, elle avait tenté de décrocher un autre poste, celui de secrétaire général du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Elle a même fait un déplacement en Éthiopie pour rencontrer le secrétaire général de l'ONU. Mais comme me l'a expliqué un diplomate, elle avait très peu de chances de l'obtenir. Ce diplomate a souhaité garder l'anonymat. Nous avons donc fait lire son témoignage.
Sur le poste à l'ONU, elle a été extrêmement mal conseillée. On aurait dû lui dire qu'elle n'avait absolument aucune chance. Pour devenir administrateur du PNUD, il faut être le candidat d'un pays qui fait partie des principaux contributeurs du programme. Or, la France ne donne quasiment rien au PNUD. Et d'ailleurs, à l'arrivée, c'est un Allemand qui a été nommé, et l'Allemagne est le plus gros contributeur du programme.
Ouais, donc le PNUD, c'est pas possible. Le ministère de l'Environnement, on l'a donné à Nicolas Hulot. Reste donc les pôles.
Oui, et c'est en quelque sorte un lot de consolation. Statutairement, ce n'est pas aussi prestigieux, ce n'est pas payé. Mais Ségolène Royal va négocier une enveloppe de frais de mission importante, 100 000 euros par an, c'est trois fois plus que ce qu'avait Michel Rocard. Et elle va faire embaucher deux de ses proches à son service au ministère des Affaires étrangères, son assistante de toujours, qui l'a suivie partout, et un conseiller en communication. Elle va aussi pouvoir s'appuyer sur des chargés de mission en CDD.
Ouais, c'est donc un petit cabinet qui se met en place. Mais à ce stade, Sylvain, faut expliquer, ambassadeur des pôles, c'est quoi précisément?
Eh bien, ça entre dans la catégorie de ce que l'on appelle les ambassadeurs thématiques. C'est Jacques Chirac qui a créé le premier en 1998. Il y en a eu jusqu'à 26 en 2011. Actuellement, ils sont une quinzaine. Et il y a deux profils sur ces postes, m'a raconté la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet.
Et les ambassadeurs thématiques qui sont les ambassadeurs qui n'ont pas de poste, donc qui sont de toute façon des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et qui sont payés de toute façon et ils n'ont pas d'affectation. Donc ceux-là, on leur donne une mission, ça peut être un ambassadeur thématique tout à fait utile. On l'a vu notamment pour un ambassadeur chargé du terrorisme. Mais à côté de ces ambassadeurs de métier qui deviennent thématiques parce qu'ils n'ont pas d'affectation, vous avez aussi une catégorie d'ambassadeurs thématiques qui sont les amis et les copains en mal d'exotisme et qu'on nomme à des missions plus ou moins intéressantes.
Ouais, des missions plus ou moins intéressantes. Et elle pense à quoi quand elle dit ça?
Eh bien, dans le passé, on a eu par exemple un ambassadeur chargé de la promotion de la cohésion sociale. On a du mal à voir ce qu'il y a de diplomatique là-dedans. Hein. Ou un autre chargé de la dimension culturelle de la présidence française de l'Union européenne.
Et voilà. Ambassadeur chargé des pôles, alors, là-dedans, ça se situe où?
Eh bien, lorsque le poste a été créé, hein, avec la nomination de Michel Rocard en 2009, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sarcasme. Hein. On parlait de l'ambassadeur des pingouins et des manchots. Mais, de l'avis de beaucoup de spécialistes, Michel Rocard a su donner une dimension au poste. Et puis surtout, les pôles sont devenus un enjeu majeur. Et avoir un ambassadeur sur ces sujets, ce n'est pas un gadget pour Camille Escudé, spécialiste des pôles et enseignante-chercheuse à Sciences Po.
Je pense que c'est une fonction importante parce que la France a effectivement une voix à faire porter dans les pôles qui est spécifique. Les pôles ont un rôle majeur à jouer dans le climat. Aujourd'hui, le changement climatique, on est tous d'accord pour dire que c'est un des défis majeurs à relever pour le 21e siècle. Avoir une seule personne qui s'occupe de ces questions, ça permet d'avoir une vision à 360 degrés de la question. C'est-à-dire que pour une personne, on va pouvoir s'occuper à la fois des questions environnementales, à la fois des questions économiques, à la fois des questions de recherche. C'est un vrai job à plein temps parce que il faut être capable de couvrir tous les tableaux. Donc pour ça, effectivement, ça me semble nécessaire.
Donc pour cette chercheuse, c'est devenu un sujet essentiel. Mais apparemment, pour Ségolène Royal, Sylvain, c'est pas un travail à temps plein.
Clairement, non. Et ce n'est pas un secret. Hein. Il suffit de voir le nombre d'interviews, d'inaugurations, de conférences auxquelles Ségolène Royal participe pour comprendre qu'elle mène une vie publique à deux facettes. Ambassadrice des pôles d'un côté et femme politique de l'autre, parce que, elle le dit clairement, elle n'a pas renoncé à la vie politique, pas même à l'élection présidentielle, comme elle le disait à un journaliste sur Radio-Canada en août dernier.
Vous avez laissé la porte entrouverte pour une nouvelle candidature, peut-être en 2022, c'est exact?
Oui, c'est vrai. Maintenant, on verra comment les choses se passent. Hein. C'est pas du tout une déclaration de candidature. Ça serait d'ailleurs très maladroit de ma part. Oui, je serai présente sur les échéances politiques qui viennent pour défendre les valeurs auxquelles je crois et pour me mettre au service de ces valeurs.
Ouais, donc elle n'a pas quitté la politique, on l'entend. Mais comment on fait de la politique quand on n'a ni mandat électoral, ni parti politique derrière soi?
Eh bien, on utilise plusieurs canaux. Ségolène Royal écrit d'abord des livres, Manifeste pour une justice climatique en 2017, Ce que je peux enfin vous dire l'an dernier, qui s'est très bien vendu. Des livres, ce sont des invitations médias, des conférences, des signatures. C'est une façon d'occuper le terrain. Et puis, Ségolène Royal multiplie les déplacements en province depuis qu'elle a quitté le ministère. Comme par exemple le 19 octobre dernier à Confrançon, dans l'Ain, où elle inaugurait une aire de covoiturage.
Et voilà, on applaudit bien
fort. Ouais, l'ambiance a l'air effectivement très bonne, Sylvain, mais quel rapport entre le covoiturage dans l'Ain et les pôles?
Eh bien, lors du déplacement à Confrançon, une équipe de France 3 a justement pu lui poser la question, et voilà ce qu'elle a répondu.
Quel est le point commun entre le pôle Nord et Confrançon? Ça peut paraître étonnant comme question. Hein. Eh bien, figurez-vous, c'est que la planète, c'est quand même notre petit village, hein, les petites. Et ce qui se passe au pôle Nord avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces a un impact ici. Et de même, les bonnes actions qui sont faites sur tous les territoires ont un impact sur la baisse pour le réchauffement climatique.
Donc tout ce qu'on fait finalement a un rapport avec les pôles.
Eh bien, en tout cas, c'est comme ça qu'elle justifie le fait qu'elle va inaugurer des réalisations qui avaient été lancées lorsqu'elle était ministre de l'Environnement. Et notamment dans le cadre d'un système qu'elle avait créé, les TEPCV, les territoires à énergie positive pour la croissance verte. L'État subventionne des réalisations, hein, comme cette aire de covoiturage. Mais ces inaugurations ont passablement agacé l'équipe de son successeur Nicolas Hulot, comme me l'a raconté un ancien membre de son cabinet, dont nous avons fait lire le témoignage.
Nous, ça nous a un peu énervés, parce que l'étape CV, c'était bien sur le principe, mais rien n'était précis. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il manquait les deux tiers de l'argent. C'était un projet lancé comme ça, en fin de quinquennat, et on verrait bien ce qui se passerait après. Ils avaient signé des chèques en blanc, et nous, il fallait qu'on les honore, ces chèques. En fait, pendant qu'on se battait pour financer les projets, elle coupait les rubans, et elle posait pour la photo.
Alors, je précise que Ségolène Royal, elle proteste et affirme que tout était financé correctement.
Oui, mais ce qu'on entend aussi derrière ça, Sylvain, c'est donc qu'au ministère de l'Environnement, certains avaient l'impression qu'on marchait sur leur plate-bande.
Oui, c'est ça. Et c'est plutôt habile, hein, politiquement. Ça lui permet de continuer à exister sur le terrain, mais ses déplacements posent tout de même question.
Et pourquoi?
Eh bien, qui paye ses déplacements? Le ministère des Affaires étrangères, sur son enveloppe de frais de mission? J'ai posé cette question à Ségolène Royal et au ministère. Aucun ne m'a répondu. En revanche, ce que j'ai pu établir, c'est que Ségolène Royal se déplace parfois accompagnée de collaborateurs mis à disposition par le Quai d'Orsay.
Les collaborateurs qui sont censés travailler pour l'épaule ?
Exactement. À Confrançon, où on l'entendait, hein, elle était accompagnée de son conseiller. Mais j'ai également retrouvé des photos, des vidéos de lui l'accompagnant dans le Berry pour une inauguration de chaufferie, au zoo de Beauval ou sur un salon du cosmétique. Son assistante personnelle, elle, elle est là quand elle signe son livre à Montpellier ou quand elle inaugure un hôpital en Poitou-Charentes. Bref, des missions qui semblent assez éloignées de la diplomatie.
Ouais, c'est un peu comme si l'ambassadrice et la femme politique ne faisaient qu'un.
Oui, et j'ai découvert que les membres de son cabinet effectuaient des missions pour le compte de sa fondation cette fois-ci.
Sa fondation, c'est-à-dire ?
Eh bien, Ségolène Royal a créé une fondation qui s'appelle Désir d'avenir pour la planète.
Ah oui, Désir d'avenir, comme le nom de son association de campagne en 2017 ?
Oui, lors de la présidentielle, effectivement. Désir d'avenir existe toujours, d'ailleurs, et une partie de ces fonds ont été transférés vers Désir d'avenir pour la planète, sa nouvelle fondation.
Mais elle sert à quoi, cette fondation ?
Eh bien, à pas mal de choses, si on écoute cette interview donnée à Radio-Canada en octobre 2018.
J'ai ma fondation,
oui,
où je travaille avec les femmes africaines pour apporter l'énergie solaire justement sur les maternités. J'ai lancé un appel à projet sur cinéma et climat avec de très jolies choses qui sont remontées. Je crée l'ingénierie, une plateforme d'ingénierie financière pour les communes, les territoires. Et puis il y a des actions aussi qui sont lancées en Méditerranée sur l'autonomie énergétique des îles. Donc c'est un travail merveilleux, bénévole et qui m'apporte beaucoup de satisfaction.
Ah oui, c'est donc une fondation qui fait beaucoup de choses. Hein.
En apparence, oui, mais la réalité semble assez différente. Hein. La plateforme d'ingénierie financière là, dont elle parle, j'ai fait de nombreuses recherches, je n'en ai pas trouvé la trace. Les actions en Méditerranée, a priori, elle fait référence à un partenariat qu'elle a signé avec la Fondation Albert II de Monaco. Je me suis renseigné, il n'y a aucun projet dans les tuyaux.
Bon, mais elle fait quand même bien quelque chose, cette fondation, non ?
Alors oui, Ségolène Royal a inauguré des panneaux solaires posés sur des maternités au Sénégal et au Cameroun en juillet 2018. Et à cette occasion, elle a expliqué ce qu'elle faisait là-bas à la radio camerounaise.
J'ai donné à chaque femme une fiche de collecte d'information parce que je suis quelqu'un de très concret, de très opérationnel et je veux qu'avant la fin de l'année, les choses soient en mouvement dans chacune de ces mairies. Et par exemple, il me faut la description des locaux, la surface du bâtiment, le nombre de pièces, le nombre d'étages, s'il y en a. Moi, je vais regarder, parce que je connais toutes les entreprises du secteur solaire, quelles sont les technologies qui correspondent à la configuration technique de chaque maternité.
Ah oui, donc là, elle s'implique personnellement dans le projet.
Oui, sauf que si on y regarde de plus près, ce n'est pas la fondation de Ségolène Royal, mais la fondation EDF qui a financé et réalisé l'essentiel du projet. La fondation EDF hein, a mis du personnel à disposition, sélectionné les entreprises sur place au Cameroun. Et au Sénégal, c'est la fondation Géocoton, c'est une grosse entreprise locale, qui a financé et réalisé les travaux.
Mais alors, que fait Désir d'avenir pour la planète sur ces projets ?
Eh bien, elle promeut, elle inaugure, et un membre de son cabinet supervise. Dans un document de l'ambassade de France au Sénégal, que j'ai obtenu, il est écrit que son conseiller du Quai d'Orsay a fait un voyage en Casamance en janvier dernier pour visiter ses projets.
Le conseiller qui est censé travailler pour l'épaule ?
Oui, alors j'ai posé la question au ministère des Affaires étrangères, puisque c'est lui l'employeur, hein, pour savoir qui avait financé ce voyage, mais il ne m'a pas répondu. Maintenant, j'ai découvert que ce conseiller était également intervenu sur deux autres opérations de la Fondation, dont un festival de cinéma.
Un festival de cinéma ?
Oui, alors ça commence par un article du Parisien qui titre le 5 juillet 2018 « Ségolène Royal se lance dans le cinéma ». Elle annonce qu'elle va lancer un grand concours et qu'elle va contacter Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, qu'elle va lever des fonds pour produire des films. Et l'info est reprise par de nombreux médias.
Et ça a donné quoi ?
Eh bien, écoutez cette partenaire de l'opération que j'ai contactée. Elle aussi a souhaité garder l'anonymat. Nous avons donc fait lire son témoignage.
On a été sollicité par Ségolène Royal. Bon, on trouvait ça un peu flou, mais on s'est dit « c'est une belle cause ». Alors on a accepté de les soutenir. Et puis ça a été une catastrophe. C'était pas sérieux, la sélection des vidéos a été faite n'importe comment. Il y avait même un film publicitaire sur la Corse au milieu de la sélection. Le jury s'est réuni on ne sait pas quand, on a été tenu au courant de rien. On est habitué à faire ce genre d'opération, mais là ça a été une expérience singulière.
singulière, mais encore, Sylvain, concrètement, ça a débouché sur quoi ?
Eh bien, on n'a jamais vu ni Leonardo DiCaprio ni Marion Cotillard. À l'arrivée, c'est un film réalisé par une classe d'élèves de CM1 qui a été sélectionnée et la levée de fonds lancée auprès du public a permis de récolter 50 euros. Bref, on est loin des annonces du lancement du projet.
Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que des employés censés travailler à l'ambassade des pôles sont parfois présents sur des événements assez éloignés de l'Antarctique, disons, et travaillent même parfois pour la fondation de Ségolène Royal, Désir d'avenir pour la planète, eh bien penchons-nous d'un peu plus près sur cette fondation, Sylvain Tronchet. D'abord, comment elle a vu le jour, cette fondation ?
Alors, d'abord, précisons qu'il n'est pas simple de le savoir, puisque les fondations telles que celle de Ségolène Royal sont censées déposer leurs comptes tous les ans et qu'elles, pour l'instant, ne l'a pas fait. Mais j'ai tout de même pu reconstituer une partie de l'histoire grâce à des documents et des témoignages.
Et alors ?
Alors, au début, en juin 2017, Ségolène Royal avait de grandes ambitions. Elle disait à sa petite équipe que leur modèle devait être la fondation de Barack Obama.
Ah oui, on place la barre très haut. Et comment on fait pour arriver si haut ?
Eh bien, son plan, c'était de faire appel à la générosité de donateurs fortunés. J'ai pu avoir accès à un document où l'on voit ceux qu'elle envisage de solliciter. On y trouve Vincent Bolloré, Michel-Édouard Leclerc ou Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF.
Et ils ont dit oui ou non alors ?
Eh bien, on ne le sait pas précisément puisque, je vous le disais, la fondation n'a pas déposé ses comptes et Ségolène Royal n'a pas souhaité me répondre. J'aurais bien aimé vous faire entendre un de ses financeurs, mais le seul qui ait accepté de me parler, c'est un chef d'entreprise qui a été approché. Il a souhaité garder l'anonymat et nous avons fait lire ses propos.
J'avais fait un petit geste pour son association, Désir d'avenir, il y a quelques années. Mais là, ça ne me semblait pas très clair. J'avais du mal à comprendre quel rôle intermédiaire pouvait jouer sa fondation entre nous et les ONG qu'on connaît déjà sur ces sujets. Il n'y avait pas de projet précis, donc je n'ai pas répondu à sa sollicitation.
Ouais, donc lui décline.
Oui, et il n'est pas le seul. Ségolène Royal a aussi sollicité de très riches hommes d'affaires, comme Elon Musk, le créateur des Tesla, les voitures électriques grand luxe.
Ah oui, celui qui fabrique les fusées SpaceX.
Oui, c'est bien lui, effectivement.
Et il a répondu quoi ?
Eh bien, j'ai lu son courrier de réponse. Il explique qu'il est accaparé par ses projets et qu'il ne peut pas financer la fondation. Il a également refusé de faire un geste sur le prix d'une Tesla. Mais il y a un autre nom qui m'a interpellé dans la liste des possibles donateurs, celui de Steven Schwarzman.
Et c'est qui ?
Alors, c'est le créateur et le dirigeant de Blackstone, un très gros fonds d'investissement américain. C'est un homme très riche qui gagne entre 500 et 700 millions de dollars par an. Et surtout, c'est un proche du président américain, Donald Trump, m'a raconté Anne Driff, journaliste au journal Les Échos.
Il est réputé proche de Trump puisqu'il a dirigé son comité économique, c'est un très proche de Trump. Aujourd'hui, c'est la fin de sa carrière, il tire sa révérence, il a organisé sa succession. Mais voilà, il fait toujours l'apologie du capital investissement à l'ancienne. Et pour lui, ça reste le plus beau modèle du monde.
Ouais, donc c'est un pur financier.
Oui, là on est loin de la finance verte. Blackstone est notamment présent dans le pétrole, la chimie. C'est aussi un fonds d'investissement qui est accusé de déstabiliser le marché de l'immobilier en Espagne.
Mais alors comment est-ce que Ségolène Royal a pu approcher cet homme qui semble être aux antipodes de son univers politique ?
Alors pour cela, il faut revenir en arrière. Au 19 février 2017, Ségolène Royal est encore ministre de l'Environnement. Et ce dimanche matin, elle vient en visite à Chambord. Ce n'est pas un déplacement officiel, mais une caméra de France 3 est là pour l'accueillir et elle doit alors expliquer ce qu'elle vient faire là.
C'est la visite justement d'un mécène américain, M. Schwarzman. Il voulait voir de ses yeux ce qu'avait donné l'engagement du don qu'il avait fait à Chambord.
Ah oui, donc Steven Schwarzman a fait un don au château de Chambord.
Oui, et un très gros don, 3,5 millions d'euros pour refaire les jardins à la française du château. Ça valait bien une petite visite privée et un déjeuner avec Ségolène Royal. Mais pas seulement. Un mois plus tard, lors de l'inauguration officielle des jardins de Chambord, François Hollande en dit un peu plus sur le don du financier américain.
Ce geste de solidarité, Monsieur Schwarzman l'a décidé à un moment où notre pays était frappé par les attentats terroristes. Et il voulait qu'il y ait un acte, un soutien qui puisse être apporté, une amitié qui puisse être prononcée à travers ce don. Alors, il a eu, de la part de la ministre de l'Environnement, une distinction pour qu'on lui témoigne, nous aussi, notre solidarité et notre admiration.
Une distinction, mais il parle de quoi là ?
Eh bien, ce qu'on sait maintenant, c'est que lors de sa visite à Chambord, Ségolène Royal l'a élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. C'est là que le contact se noue, et la suite de ça, c'est qu'elle obtient un rendez-vous en septembre 2017 avec Steven Schwarzman à New York. Mais l'homme d'affaires qui avait pourtant financé la fondation Carla Bruni-Sarkozy ne donnera finalement rien à celle de Ségolène Royal, c'est ce que m'a confirmé son entourage.
Bon, alors là, vous me parlez de ceux qui ne donnent pas, Sylvain, mais il y en a bien qui ont donné quand même, non ?
Alors oui, d'après mes informations, la fondation a notamment été financée par le groupe Hervé, c'est un groupe de BTP qui met également à sa disposition un appartement à côté de la Tour Eiffel qui sert de siège à Désir d'avenir pour la planète.
Bien, alors ça, c'est pour l'aspect financier. Maintenant, ce que vous avez également remarqué, Sylvain, c'est que cette fondation, c'est aussi quelque part un outil de promotion pour Ségolène Royal.
Oui, alors, au officiellement, son objet, c'est le combat pour le climat. Mais il suffit d'aller se promener sur son site internet pour voir que la majorité des actualités mises à jour sont les dernières prises de position de Ségolène Royal, ses dernières interviews, ses dernières séances de dédicaces. Elle est présente en photo partout. Dans une certaine mesure, ça ressemble à un micro-parti politique, avec une différence. Elle est financée par des entreprises, ce qui est interdit pour un parti politique.
Mais pas pour une fondation.
Eh bien non, et il n'y a rien d'illégal à cela. Ségolène Royal semble jouer d'une possibilité ouverte par la réglementation. La loi interdit le financement politique par des personnes morales, des entreprises, mais une fondation, avec un statut associatif, elle peut le faire. C'est ce que m'a expliqué l'universitaire Romain Rambaud, spécialiste du financement politique.
Pendant toute la période où on n'est pas en période de campagne électorale, on peut avoir une activité politique au sens d'activité humaine dans un cadre associatif. Avoir le statut d'association permet d'autres avantages, typiquement le fait de ne pas être contrôlé par la commission des comptes de campagne ou de pouvoir toucher des subventions ou des cotisations en tout cas de personnes morales. C'est, disons, une possibilité qui est laissée et qui peut poser question, il est vrai, dans certains cas de figure très précis.
Dans certains cas de figure, c'est-à-dire ?
Eh bien, ça pose la question du conflit d'intérêts potentiel. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit que la fondation de Ségolène Royal était financée par le groupe Hervé. Or, c'est un spécialiste de l'isolation. Et que dit Ségolène Royal lorsque le gouvernement décide de supprimer une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique qui précisément favorisait ce type d'entreprise ? Eh bien, écoutez, c'était en février dernier.
Écoutez les entreprises du bâtiment, c'était un outil extrêmement efficace. Elles s'étaient engagées, toutes ces entreprises du bâtiment. Elles avaient formé leurs salariés, exigé des certifications professionnelles. Et du jour au lendemain, on leur supprime ce crédit d'impôt.
Oui, donc elle conteste cette suppression. Bon, maintenant Sylvain, on peut penser ça sans forcément renvoyer un ascenseur à quelqu'un qui vous a financé, non ?
Oui, bien sûr. Elle défend ici une mesure qu'elle avait soutenue lorsqu'elle était ministre. Mais la loi a voulu instaurer un mur entre l'activité politique et l'argent des entreprises pour éviter justement qu'il y ait la moindre suspicion entre une prise de position et un intérêt privé. Or, ici, la question peut se poser.
Et c'est sur cette question qu'on va s'interrompre provisoirement, mais surtout restez avec nous dans quelques instants. Nous allons voir en quoi consiste cette fois-ci, très concrètement, l'activité de Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles. Standing there. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow.
hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
C'est enlevé et intimiste en même temps, c'était All the Good Girls Go to Hell, extrait du tout premier album, très prometteur d'ailleurs, de la jeune américaine Billie Eilish.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu ce qu'était la fondation Désir d'avenir pour la planète créée par Ségolène Royal, Sylvain Tronchet, bah expliquez-nous en quoi consiste cette fois-ci son activité d'ambassadrice des pôles.
Alors, il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a eu une polémique qui est montée autour de son activité réelle ou supposée ces dernières semaines. J'ai donc regardé cela d'un peu plus près. En Antarctique, ce sont les réunions du traité de l'Antarctique, l'instance principale de décision qui compte. Ségolène Royal a participé à une des deux réunions auxquelles elle aurait pu assister.
Donc c'est du 50%. Et pour l'Arctique ?
Eh bien pour l'Arctique, c'est le Conseil de l'Arctique qui compte. Et justement, Jean-Jacques Bourdin l'a interrogé sur ce sujet sur BFM TV le mois dernier.
Est-il vrai que vous ne vous êtes jamais rendu au Conseil de l'Arctique ? Qu'est-ce que c'est que
C'est une fake news, vous voyez, c'est quand même terrible, ces mécanismes de délation sur Internet. Et ensuite, c'est repris, par les gens qui ne travaillent pas.
C'est une fake news. C'est vraiment une fake news, Sylvain ?
Eh bien non. Les relevés de présence du Conseil de l'Arctique, comme les personnes que j'ai interrogées, sont formels. Elle n'y est jamais allée. En revanche, c'est vrai, elle se rend dans les forums plus informels comme Arctic Circle, qui est une espèce de Davos du monde polaire, un endroit où il lui est possible de prendre la parole.
Parce qu'au Conseil de l'Arctique, on peut pas ?
Eh bien, ce n'est pas évident pour une ambassadrice française, et c'est ce que m'a expliqué la spécialiste des pôles de Sciences Po, Camille Escudé.
En Arctique, c'est compliqué pour la France puisque le Conseil de l'Arctique réunit les 8 États membres de ce Conseil de l'Arctique qui sont en fait les 8 États à avoir des territoires au nord du cercle polaire. Et évidemment, la France n'en fait pas partie. Donc, au Conseil de l'Arctique, la France, en tant qu'État observateur, n'a pas le droit de prendre la parole. Et ce statut d'observateur, il est assez réduit en fait.
Ouais, c'est réduit, donc il est plus difficile de s'y faire entendre.
Oui, et on m'a expliqué que ce serait une raison pour laquelle elle ne s'y rendrait pas. Cela peut se comprendre, d'ailleurs, même si son prédécesseur, Michel Rocard, lui, allait au Conseil de l'Arctique. Mais disons effectivement que certains signes montrent que Ségolène Royal accorde une grande importance au fait de pouvoir monter à la tribune et plus généralement d'ailleurs à la communication.
Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?
Eh bien par exemple, l'un de ses tout premiers déplacements officiels d'ambassadrice en Finlande, en novembre 2017. Elle est intervenue dans une réunion internationale et d'après mes informations, l'ambassadeur de France lui a proposé ensuite de rencontrer le président finlandais. Mais elle a décliné et elle a insisté pour aller en Laponie.
Et pourquoi en Laponie ?
Eh bien pour faire du traîneau à chien. Problème, on était en novembre et ce n'était pas encore la saison. Mais elle y tenait absolument, comme me l'a raconté l'explorateur Gilles Elkaïm, un Français installé là-bas, qui l'a finalement promené sur son traîneau.
Le traîneau, c'était pas tout à fait encore la saison. Le lac était encore assez impraticable. La glace venait de se former, elle pouvait être fragile et j'avais quelques réticences à ce propos. Bon, l'ambassadeur étant un peu gêné, insistant même, alors je me suis dit, essayer d'arranger les choses, quoi. Pourquoi pas qu'il ait trop de problèmes avec son invité. C'était dans les exigences de Ségolène Royal. Et on ne peut pas refuser ce type d'exigence à une ex-ministre. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ça m'a expliqué l'ambassadeur, du moins.
Mais pourquoi est-ce qu'elle voulait absolument faire du traîneau à chien ?
Eh bien parce qu'elle était accompagnée par un journaliste et un photographe de Paris Match. Et à en croire Gilles Elkaïm, c'était surtout cela qui l'a préoccupé.
C'était pas dans ses plans de parler environnement avec moi, puisqu'on n'a pas réussi de toute la journée. Enfin, même si j'ai lancé la conversation à plusieurs reprises sur ce thème, j'ai pas eu de retour là-dessus, malheureusement, parce que c'était une bonne occasion de parler des problèmes en Arctique, et Dieu sait s'il y en a actuellement, Je m'attendais à ce que ça soit une opération de communication, et ça l'a été,
une opération de communication. C'était vraiment ça ?
Eh bien, c'est ce que lui reprochent certains acteurs de ce petit monde, hein, qu'est la diplomatie d'épaule, où tout le monde se connaît, et c'est exactement ce que fait l'autre. Et ça a conduit la maire de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ancienne sénatrice socialiste Karine Clairaut, à écrire à Emmanuel Macron un courrier que j'ai pu me procurer, et dont nous avons fait lire un extrait.
J'attire votre attention sur le fait que le poste d'ambassadeur pour l'Arctique et l'Antarctique doit être occupé à temps plein par un spécialiste de ces enjeux. Je dis à plein temps car, depuis sa nomination, l'actuelle ambassadrice chargée des négociations polaires n'a siégé à aucune réunion du Conseil de l'Arctique. Malgré mes demandes répétées, Madame l'ambassadrice n'a pas davantage pris attache avec les acteurs de notre archipel, pas même à l'occasion de son déplacement en octobre 2018 dans la ville canadienne voisine de Moncton.
Ouais, Moncton, maintenant, au-delà de cette polémique, Sylvain, est-ce qu'on a une idée précise de ce qu'elle fait ?
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que son cabinet a édité un agenda pour répondre à cette critique. Un agenda que j'ai pu me procurer.
Et il dit quoi, cet agenda ?
Eh bien, notamment qu'il y a des périodes où elle a très peu d'activité. Par exemple, entre octobre et décembre 2018, en 3 mois, il y a eu un voyage en Islande pour participer à un forum et un message vidéo envoyé à un autre forum. Ça fait peu, hein ? Et il y a aussi des bizarreries dans cet agenda.
Des bizarreries, c'est-à-dire ?
Eh bien, elle fait état de réunions auxquelles elle n'est pas allée. C'est le cas, par exemple, d'un forum à Strasbourg où elle a annulé sa venue au dernier moment. Les organisateurs me l'ont confirmé.
Et au Quai d'Orsay, on en dit quoi de cette polémique sur son activité supposée ou réelle ?
Alors, le Quai d'Orsay n'a pas souhaité me répondre, mais j'ai rencontré un diplomate qui a souhaité rester anonyme. Lui soutient que certains fonctionnaires de la direction juridique, celle qui est précisément chargée d'épaule, commencent à se décourager. Nous avons fait lire ces propos.
Il n'y avait personne de la direction juridique du ministère au Conseil de l'Arctique en Finlande en 2018. C'est totalement anormal. Et vous savez pourquoi ? Parce que la direction juridique ne veut plus travailler avec elle et qu'il n'y a pas de pilotage sur le dossier des pôles.
Ouais, on perçoit une certaine exaspération maintenant, ce manque de pilotage qu'évoque ce diplomate, Sylvain. On peut pas l'imputer à Ségolène Royal, non ?
Non, on sent bien aussi que les pôles, plus généralement, ce n'est pas forcément la priorité de la diplomatie française. Hein. Écoutez ce que disait Jérôme Chaplaz, c'est le directeur de l'Institut Paul-Émile Victor, devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée en septembre dernier.
Ce diagramme en barre vous montre le budget en millions d'euros mis en place par différentes nations pour soutenir cette logistique dans les régions polaires. Donc je vous le rappelle, avec la France, l'IPEV, nous sommes à environ 18 millions d'euros. L'Italie est un peu au-dessus de 20 millions d'euros. La Corée du Sud se situe à 45 millions d'euros pour la même mission. L'Allemagne dépasse les 50 millions d'euros. Et les Australiens, par exemple, sont également à 45 millions d'euros. Et le nombre de scientifiques que l'on accompagne sur le terrain, vous voyez qu'en fait, on amène à peu près autant de scientifiques sur le terrain pour des missions scientifiques que la Corée du Sud, avec un budget 2,5 fois inférieur. Alors, on peut appeler ça un miracle. Je ne vous cache pas que le miracle arrive à ses limites et qu'aujourd'hui, en tant que directeur de l'Institut Polaire, je dois gérer des ressources humaines qui sont à bout avec des personnes qui craquent et qui commencent à se mettre en disponibilité. Et donc, le miracle ne va pas se prolonger très longtemps avec les moyens dont on dispose.
Ouais, donc, si on l'entend, les pôles sont clairement un parent pauvre de notre politique.
Oui, et puis, ce qu'on m'a dit aussi, hein, c'est qu'il faudrait sans doute rendre un peu plus transparent les moyens, les missions, les objectifs de ce poste d'ambassadeur des pôles, de façon notamment à éviter les dérives, les polémiques. C'est en tout cas ce que pense encore la sénatrice UDI, Nathalie Goulet.
La question est moins une question de coût global, bien que ça corresponde à un coût, qu'une question de méthode. C'est-à-dire la désignation de façon totalement arbitraire, aucune transparence sur les moyens, aucun contrôle, aucun rapport de mission, et en tous les cas, aucune information du Parlement. Je pense que c'est vraiment un dossier emblématique de ce qu'il ne faut plus faire, non seulement avec l'argent public, mais aussi avec la transparence exigée par le Parlement.
Oui, donc si j'entends bien, au-delà du fonctionnement d'une personne, se pose aussi plus généralement la question du cadre. Hein. Maintenant, Sylvain, un mot, et pour terminer, Ségolène Royal, vous l'avez bien sûr contactée.
Oui, nous l'avons contactée pour la première fois 3 semaines avant la diffusion de cette enquête. N'ayant pas de réponse, nous l'avons relancée à de nombreuses reprises. Et puis, n'ayant toujours pas de réponse, nous lui avons envoyé une liste de questions sur tous les points abordés au cours de cette émission. Elle nous a alors envoyé ce message « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, vos insinuations sont diffamatoires ». Depuis lors et depuis la diffusion sur Internet de nos enquêtes, elle a publié un message sur les réseaux sociaux où elle affirme que les activités de ses collaborateurs sont bénévoles et associatives.
Et voilà qui est donc précisé. Alors merci Sylvain Tronchet, je précise aussi que votre enquête, on peut la réécouter, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire, comme chaque semaine, sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Sonia Leglen, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Ludovic Asselot. Dans quelques instants, dans la librairie francophone, Emmanuel Quérad recevra Jean-Paul Dubois, le prix Goncourt 2019, s'il vous plaît. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.